Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 8 septembre 2014 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour évoquer tout d'abord l'actualité internationale et puis nationale et peut-être locale ensuite. Robert, as-tu envie d'ouvrir sur un des multiples sujets du jour ?
Une espèce de mise en garde à propos de l'OTAN. OTAN en emporte le vent, quoi. Tu vois, on peut faire des jeux de mots comme ça, hein, c'est facile. Et puis, c'est par contre inquiétant ce qui s'est passé ces derniers jours. Du côté du Pays de Galles, à Newport, où se réunissaient les gens de l'OTAN, et qui donnent l'impression que c'est le gendarme, ils sont le gendarme du monde, que leur a sous-traité les Américains, et que l'Organisation des Nations Unies ne compte plus du tout dans la manière de concevoir l'ordre mondial qui est en fait l'ordre dominant, celui de l'institution économique et financière du capitalisme avec son bras armé un peu partout, mais qui va aller s'élargir, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. L'Amérique latine, c'est-à-dire les pays Amériques de la mer Indie, c'est-à-dire tous ces pays qui, depuis quelques décennies, ont réussi à décrocher quelques parcelles d'autonomie, ne sont pas du tout impliqués, comme si finalement, pour l'instant, le monde dominant estime que l'Amérique du Sud n'existe pas, alors que la Chine aussi n'existe pas. Bon, c'est bizarre ce comportement amnésique de des pays occidentaux, à commencer par ceux de l'Union européenne, qui fidèlement pousse pour que Obama aille de l'avant, en disant Obama, on vous suit, mais à condition que vous marchiez devant nous. Voilà, mais c'est sur l'OTAN, oui, il y a des aspects concrets qu'on pourrait aussi développer.
Oui, tu penses à quoi tu penses à l'Irak, l'avancée de l'armée islamique hein. Oui, là, il y a des choses, enfin, OTAN et puis hors OTAN, puisque ça réagit aussi du côté de la Ligue arabe, hein, qui comme on l'a déjà, comme on le pressentait, donc ils étaient réunis dimanche au Caire, même les pays du Golfe ont tendance à vouloir s'opposer aux djihadistes, et l'Iran et l'Arabie saoudite sont même prêts à se rapprocher dans ce cadre, alors que l'Iran, par rapport à l'OTAN et aux Américains, elle n'a rien dit et n'a pas bougé, enfin n'a pas pris du tout langue avec eux pour lutter contre les djihadistes. Ils ont peut-être assez à faire du côté de la frontière syrienne, je ne sais pas. Et c'est Arabie Saoudite qui s'en méfie tellement de ces sunnites radicaux qu'elle a fait grandir en son sein et qui maintenant deviennent presque dangereux pour elle, qu'elle en est à construire une barrière qui fait déjà 900 km avec 5 épaisseurs, des miradors, des fossés, des caméras, enfin tout ça. Et donc ils entrent un peu dans cette danse anti-djihadiste. Les Américains, bien sûr, l'OTAN, mais aussi eux tout seuls, puisqu'ils ont quand même pas attendu les réunions de l'OTAN pour intervenir. Il y aurait 1000 Américains sur place, mais qui ne sont pas en première ligne au contact, on va dire, avec les ennemis, mais l'infrastructure, on ne met pas des avions en service sans avoir du monde derrière pour des tas de tâches qui tournent autour, quoi. Donc, situation qui perdure de cet État islamique qui s'impose, mais en même temps qui n'arrête pas de faire lever autour de lui des oppositions et des combats. Alors la question c'est, en viendront-ils à bout, tous ensemble ou chacun de leur côté, ou au contraire, l'État islamique va-t-il survivre à toutes les attaques dont il était, dont il va être l'objet encore un peu plus, quoi. Voilà, après l'OTAN, on peut aussi parler de l'OTAN.
Peut-être encore un mot sur l'OTAN pour dire qu'il a été beaucoup question et c'est même entériné la mise sur pied de ce qu'ils appellent une force d'intervention rapide. Qui évidemment pourrait dans un premier temps servir en Ukraine, mais visiblement elle est là pour rassurer les pays balkans, la Pologne et les autres, et qui en fait finalement elle servirait à poursuivre bien le contrôle de la frontière russe du nord au sud. Ce que les Russes continuent de dénoncer naturellement comme étant cette volonté d'endiguer la Russie, c'est le mot qu'ils emploient, c'est-à-dire eh bien la pouvoir la contrôler de bout en bout. Il y a eu aussi effectivement, comme tu l'as un peu expliqué, l'intervention au niveau du Moyen-Orient. Et de ce rapprochement des Saoudiens, mais les Saoudiens, c'est comme les Israéliens, c'est un secret de polichinelle. Ils ont toujours été le bras plus ou moins armé, très armé chez les Israéliens, moins armé chez les Saoudiens, mais eux, ils ont l'arme du pétrole. C'était le bras armé des Américains dans la région, et les Américains vont en profiter pour renforcer leur positionnement d'ailleurs, et leur intervention pour défendre les Kurdes en Irak en fait leur permet de compléter leur implantation sur toute cette région, mais pas du tout dans le cadre effectivement de ce qu'a été leur intervention, c'est-à-dire c'est plus sophistiqué que d'aller faire la guerre aux talibans.
Alors, d'une manière très factuelle, il faut dire un mot de cette bataille qui se déroule actuellement autour du barrage d'Adissa, il s'appelle. Le barrage qui est toujours tenu par l'armée irakienne, mais qui subit l'attaque des islamistes du djihad. Et pour le moment, l'issue du combat n'est pas obtenue. Ceci dit aussi avec l'appui pour ce qui est des Irakiens, de l'aviation américaine qui intervient contre les combattants de l'État islamique. L'OTAN, mais c'est aussi un petit peu l'Ukraine, bien que l'Ukraine c'est plutôt l'affaire de l'Europe, et à l'heure qu'il est, à 18h, une nouvelle série de sanctions, devait être énoncée et décrite, et finalement à 18h, tous les ministres des Affaires étrangères sont retournés plancher, parce qu'entre-temps, il y en a qui ont réfléchi et qui ont changé de point de vue, de position. C'est une affaire pas simple, parce que on veut faire soi-disant des sanctions contre les Russes, mais les Russes aussi annoncent des sanctions contre les Européens. Par exemple, ils annoncent qu'ils pourraient fermer leur espace européen, leur espace aérien, et c'est pas des mesures qui sont simplement symboliques, hein. Ils touchent 200 millions par an de dollars de droits pour ces passages. En contrepartie, si les avions devaient se détourner et ne plus passer par l'URSS, au-dessus de l'URSS, ça leur coûterait 30 000 euros par vol. Donc il y a des affaires économiques sérieuses là-dedans. Puis le fond du problème, c'est quand même qu'un certain nombre de pays n'ont pas du tout envie de sanctionner les importations et leurs exportations avec les Russes. Et si d'autres s'en foutent un peu, pas tant que ça quand même, parce que le gaz, hein, je te tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rit, n'aura plus de gaz. D'un côté, s'il arrête le gaz, Poutine met l'économie européenne dans une situation catastrophique, parce qu'elle n'a pas instantanément les moyens. Le gaz, quand on veut s'approvisionner ailleurs et construire des oléoducs, c'est des affaires de 5 ou 10 ans, quoi. Donc instantanément, on n'a pas les moyens de changer de fournisseur comme ça. D'un autre côté, lui, il a besoin des dollars, des pétrogaz, des pétrodollars que ça lui rapporte pour son économie. Autrement dit, ces histoires de sanctions, c'est des coups de moulinet, mais on voit pas très bien effectivement une rupture ferme et définitive entre les Russes et les Européens. Les Américains, ils s'en foutent un peu d'ailleurs, ça leur coûte rien qu'il y ait des sanctions, parce qu'ils sont beaucoup moins concernés par les relations avec la Russie. Alors, sanctions justifiées, ça c'est encore une autre histoire, puisqu'il y a une trêve qui est en place depuis 2 jours, mais à cadence de tir variable, puisque le cessez-le-feu tient à peu près, mais il y a périodiquement des obus qui partent, on ne sait pas trop de quel côté, et qui atterrissent aussi, hein, et qui font même, comme à Mariupol, là, une femme tuée. Quoi. Donc un ralentissement plutôt qu'une trêve ferme et définitive. Et combien de temps ça va tenir? Est-ce que tout ça c'est lié à ces négociations de sanctions et de rétro-sanctions par la Russie? On se pose la question. La réunion de la fin de la semaine là de TAN pour la question n'a pas, semble-t-il, fait avancer beaucoup les choses, puisque ça a surtout servi à Hollande de se justifier des accusations de sa compagne, de son ex-compagne. On peut trouver ça quand même assez indécent que dans une réunion de politique internationale, un président de la République ne trouve rien d'autre à faire et à dire qu'à répondre à des accusations personnelles qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour, quoi. Mais on vit tellement dans un monde people qu'il faut plus s'étonner de rien.
Toujours à propos de l'Ukraine, Poroshenko, président de l'Ukraine, est à Mariupol. Mariupol, on peut dire, c'est la ville qui est encore contrôlée par Kiev, c'est-à-dire par le pouvoir central, mais qui fait partie effectivement de cette ligne frontière avec la Russie, et où se déroule un certain nombre de d'escarmouches. C'est ce qu'on vient de rappeler, mais qui ne mettent pas en cause, semble-t-il, le cessez-le-feu. Par contre, il y a cette annonce, alors, elle paraît officielle, mais elle est très importante. Les séparatistes auraient libéré, c'est-à-dire remis aux autorités de Kiev, 1200 prisonniers. 1200, le chiffre est énorme. S'agit-il d'une erreur de transcription? Mais je l'ai vu plusieurs fois sur Internet ce soir. J'ai remarqué que ça n'était pas repris sur France Info. Mais si ce chiffre était avéré, ça voudrait dire que finalement la situation était beaucoup plus catastrophique pour le pouvoir central et pour Kiev et du coup les Occidentaux qu'on a bien voulu le dire jusqu'à présent. C'est-à-dire que ces 1200, ça veut dire il y avait des pans entiers, bon, ça avait été reconnu par Kiev, des pans entiers de morceaux de l'armée qui s'étaient ralliés, il y avait ceux dont on disait qu'ils se contentaient de poser leurs fusils et puis de changer de vêtements, et il y a ceux aussi qui simplement se rendaient comme on se rend au cours d'une guerre et qu'on perd la partie, on se rend, on lève les bras et à ce moment-là on devient les prisonniers de l'adversaire. Ça voudrait dire finalement que la presse et le, enfin, on peut dire que la presse et les Occidentaux ont tellement les yeux braqués sur le fait que c'est le problème des Russes avant tout, qu'ils ne suivent pas la réalité de la situation qui se passe depuis 6 mois dans cette région. Ils refusent de regarder les choses comme elles sont. C'est-à-dire que c'est vraiment une région qui est en pleine sécession. Et c'est pas simplement l'affaire de quelques activistes appuyés par les Russes, même si depuis quelques jours, on annonce les Russes plus nombreux qu'ils l'étaient jusqu'à présent, dont on n'a d'ailleurs jamais vraiment pu les identifier. Bon, là-dessus, il y a tout effectivement plein de fantasmes sur ces gens qui ne sont pas identifiables, qui n'ont pas de vêtements, d'armée, qui ont des cagoules, des choses comme ça. Bon. Et puis le deuxième point que moi je voulais souligner, c'est que on dit il y a 2500, 2800 morts, mais ces morts, c'est surtout sur les deux villes de Donetsk et Louhansk, parce que qui étaient des villes qui étaient contrôlées par les séparatistes. Et qui a pu les tuer? C'est quand même pas les séparatistes qui eux-mêmes ont bombardé leur propre population. On sait que souvent, ça se dit, on dit, ah oui, mais pour faire fort, on n'hésite pas à tirer sur ses propres civils, etc. Bon, on le dit des fois pour la Syrie aussi, c'est jamais d'ailleurs prouvé. Et donc forcément, ces 2000 et quelques morts de l'Ukraine de l'Est, c'est forcément les forces, on va dire, loyales à Kiev qui les ont massacrés. Et c'est ce qui d'ailleurs avait déclenché la réaction russe, qui avait deux niveaux, hein. Il y avait l'aspect humanitaire et puis l'aspect militaire. Tout ça montre que finalement, on est dans une situation de mensonge permanent, et on pensait qu'après les conflits au Moyen-Orient, où les mensonges étaient apparus, eh bien, on n'aurait plus de mensonges dans cette région, mais en fait, visiblement, rien n'a changé dès lors que se déroulent des opérations guerrières.
Oui, les 1200 prisonniers, on peut se demander, bon, c'est peut-être des militaires, mais ça peut être aussi des civils, des fonctionnaires qui étaient fidèles à Kiev et que les autres prenant le pouvoir, fonctionnaires de toutes sortes, police et autres, administrations, prenant le pouvoir, les ont peut-être un peu virés et considérés comme prisonniers.
Peut-être ceux qui résistaient comme fonctionnaires, parce que sinon, leur pratique, c'était de les chasser. Ils disaient, allez, barrez-vous, on ne veut plus vous voir ici. Alors bon, alors c'est peut-être qu'au travers, il y a certains qui ont dit, mais non, je ne veux pas. Et donc, ils deviennent des prisonniers, c'est possible. Oui.
On ne sait pas bien pour le moment. Allez, on va changer un peu de région. L'Égypte où Morsi, qui est de nouveau accusé pour une nouvelle accusation. Il a déjà 5-6 chefs d'inculpation qui lui valent plus ou moins la peine de mort si les autres décident de lui appliquer. Là, il serait mis en cause sur des livraisons de dossiers de sécurité nationale au Qatar qui en échange, lui aurait versé $1 million au titre de son soutien aux frères musulmans. Quoi. Alors, est-ce que c'est de l'instrumentalisation? Est-ce que c'est réel, en tous les cas? Est-ce que c'est Sissi qui manipule tout ça pour, une fois de plus, enfoncer le clou contre les frères musulmans? On a du mal, là aussi, depuis ici, à se rendre compte de la part de la propagande et de la mise sous pression du pays avec de telles décisions. En attendant, il reste que la population souffre beaucoup en matière d'électricité dans un pays où il fait chaud, hein, climatisation, frigo et autres. Et en ayant, paraît-il, des coupures d'électricité de 7 à 8 heures par jour dans la capitale, allant jusqu'à 15 jours ailleurs, avec en plus un système, je ne sais pas comment ils font, mais qui ferait que 30% de la population serait protégée des coupures, des mesures de complaisance accusent les opposants. Et Sissi, quant à lui, appelle à la patience en disant que tous ces problèmes devraient se régler, mais que ce n'est pas instantané. Voilà, tu avais peut-être d'autres... On va aller vers l'Afrique aussi, avec différents sujets. Le virus Ebola, bien sûr, qui en Congo, en Sierra Leone, on sait qu'il y a au moins officiellement 2100 morts, sans doute beaucoup plus. La Sierra Leone qui prend une mesure assez curieuse de confinement national de 3 jours à partir du 19 septembre. On met en place 7000 patrouilles pour repérer les malades. On peut se poser dans un pays qui fait 5-6 millions d'habitants. Hein. On peut se poser beaucoup de questions sur l'efficacité d'une telle mesure. Ce confinement, chacun ne devant plus sortir de chez lui et recevant la visite des pseudo-policiers, ne garantit pas pour autant la détection de tous les gens infectés.
À propos d'Ebola, ce qu'on ne dit pas assez, parce qu'effectivement, ça met en cause la politique des pays dits riches, à commencer par ceux de l'hémisphère nord, qu'il y a quand même, je crois, à peu près 20% des malades qui guérissent. Et ben, ils guérissent parce que peut-être que bon, ils ont, se résistent mieux, leur immunité de défense est peut-être plus forte, parce qu'ils ont une hygiène de vie qui leur ont permis, qu'ils ont pu accéder. C'est pas le hasard qui en a décidé, hein, c'est bien un rapport à la pauvreté, à la malnutrition, à l'incapacité au manque d'hygiène a pu se développer à une si grande échelle cette épidémie. Mais ça, là aussi, on ne veut pas le reconnaître, parce que ça voudrait dire que ça mettrait en échec à la fois toute la dimension. Bon, individuellement, ça ne met pas forcément en cause ceux qui travaillent, les humanitaires et autres, dans ces pays pauvres, mais quand même, ça met en cause l'institution, par exemple, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui fait des bons discours, qui fait parler des grands experts, mais en fait, effectivement, il n'y a pas de mobilisation qui fasse qu'on puisse tout de suite enrayer ce genre de fléau. Tout ça, je le répète, c'est les maladies graves qui peuvent les virus qui peuvent se développer parce qu'ils sont en terrain favorable.
Avec un autre fléau, peut-être, je ne sais pas, Boko Haram, hein, qui était une secte, soi-disant, au Nigeria, il y a quelque temps, et maintenant, on parle d'une armée dans la région de Borno. Ils ont la prétention de vouloir étendre leur prise de possession du territoire. Du coup, les États voisins se sentent en danger, et même le sud du Cameroun, quoi. Avec des pratiques qui sont... Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique au Levant, hein, avec des pratiques qui sont du même ordre. Ils investissent un village et ils massacrent tous ceux qui ont le tort de ne pas être dans leur confrérie religieuse radicale, quoi. Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Afrique, on peut dire aussi un mot de la Somalie, où apparemment les Américains ont eu le chef des Chebabs, Ahmed Goban, hein, et il est aussitôt remplacé, bien sûr, avec un renouvellement de l'allégeance à Al-Qaïda, mais les drones et autres caméras ont fini par tuer cet homme qui était dans leur collimateur parce qu'il avait revendiqué l'attentat, je crois, de Nairobi qui avait fait 67 morts il y a quelques années. Ils ont la vengeance est un plat qui se mange froid chez les Américains, mais qui se mange allègrement.
Les Chebabs, qui d'ailleurs étaient très très divisés entre eux, il y a eu des règlements de compte. Néanmoins, c'était le dernier chef reconnu par la plupart des membres de ce groupe-là. Et une fois tué, ça veut dire qu'il y aura 5 ou 6 chefs. Alors ça va pas forcément faciliter le travail des drones qui vont avoir beaucoup pour les déloger.
Ça occupera la CIA en attendant.
Oui, oui.
Une autre mafia en Côte d'Ivoire, là c'est une mafia bien française, c'est Bolloré qui est remis en cause dans l'attribution. Vous savez, ils construisent un port à Abidjan, il y a un premier port, ils voulaient.
Il est chez lui, hein, ça fait partie de son empire, le port d'Abidjan.
Quand même, il y a eu justement des marchés de proposés pour la construction du deuxième terminal et un certain nombre d'associations et de gens éliminés. Il déclare qu'il a violé les règles de la concurrence et demande la remise en cause de l'attribution des travaux de ce deuxième terminal. Alors on va voir si Bolloré continue de pouvoir diriger d'une manière un petit peu mafieuse ses intérêts dans le pays. Voilà, un mot
de... les Africains et les Français avec eux qui marchent à fond dans le multinational, et ils pensaient qu'en éliminant Gbagbo, ça allait permettre ces grandes entreprises, dont Bolloré, d'accroître son périmètre. Finalement, ça se passe pas exactement comme ça. Ouattara qu'il ait quelques scrupules par rapport aux actions passées, mais il pense que il faut en donner un peu plus aux autres, et puis notamment donner aux Chinois. C'est que les Chinois sont très courtisés par les Africains.
Allez, Tunisie encore, pas très loin de nous maintenant. Valls était faire un peu de tourisme industriel là-bas, une conférence d'investisseurs que ça s'appelle. 30 pays, des dizaines d'entreprises privées. La Tunisie organise ça pour relancer son économie qui est en piètre état, le tourisme en particulier ayant fait des faillances suite à leurs derniers événements. Et M. Valls, représentant de commerce des entreprises françaises, qu'il adore, on nous l'a assez fait savoir, était là-bas aujourd'hui. Il n'y a sans doute rien d'autre de mieux à faire en France pour remonter le pays, pour animer cette agréable journée avec les Tunisiens. Il fait beau là-bas.
Il a eu, on peut simplement le remercier parce qu'il a eu le souci d'économiser les sous de la République française, puisqu'il a profité qu'il n'était pas loin, qu'il était à Bologne, qu'il était en Italie, pour faire la fête avec Renzi dans le cadre de la fête de l'UNITA, complètement dévoyée d'ailleurs, que fête qui n'a rien à voir avec celle de l'humanité. On compare avec la fête de l'humanité, mais maintenant la fête de l'UNITA, c'est vraiment la fête de la social-démocratie et des centristes. Donc il était à côté, donc il a fait un saut jusqu'à Tunis. Merci Monsieur Valls d'économiser ainsi et de ne pas faire 36 voyages alors que vous êtes dans la bonne direction de voyage, pas de la politique.
Oui, justement, en Italie, où Renzi est un peu confronté, comme la gauche française, à une forte protestation sur sa gauche la plus radicale, quoi. Les 100 jours de gouvernement où il a beaucoup parlé et agité des moulinets se terminent, mais économiquement, la situation ne s'améliore pas et sa nouvelle tentative de diminuer encore, de bloquer encore les salaires des fonctionnaires s'oppose là à un refus assez virulent. Alors peut-être que la belle l'embellie qu'il avait apportée sur le pays est en train de s'effacer un peu. Puisqu'on est en Europe, on dira un mot des Écossais. Les Écossais, indépendants, pas indépendants, on ne sait pas trop, référendum dans 15 jours. Jusque-là, les Anglais de la City étaient bien tranquilles. Ils pensaient qu'il n'y avait aucune chance que le oui à l'autonomie l'emporte. Et pas de peau, les derniers sondages font état de 51%. Du coup, eh bien, on revoit la question et on s'apprête à offrir des contreparties aux Écossais s'ils restent dans le sein du Royaume-Uni. Les Écossais qui sont majoritairement plutôt des travaillistes, puisque 40 des 51 députés travaillistes viennent d'Écosse, et donc ça poserait un problème aussi aux travaillistes anglais si ces 40-là devaient disparaître de la Chambre des communes, quoi. Et bien, à Londres, évidemment, on s'agite un petit peu autour de cette question. Y aura-t-il donc une Écosse indépendante, un nouvel État? Garderont l'euro, ne garderont pas l'euro, entreront, enfin, beaucoup de questions se posent forcément dans un cas pareil. Et puis, un 29e État pour l'Union européenne, autre point d'interrogation.
Ah oui, il pourrait garder l'euro, ne serait-ce que pour pouvoir se dégager de la livre anglaise, ouais. Parce qu'effectivement, ça, d'ailleurs, on voit que la livre a un petit peu plongé au niveau du marché des monnaies.
Voilà,
on parlait des transactions internationales, et il faut rappeler que ce mois-ci, c'est le mois de tous les dangers concernant les tractations autour du traité du grand marché transatlantique, hein, qu'on appelle le TAFTA. TAFTA, c'est les lettres qui donnent en anglais sa déclinaison. Le grand marché transatlantique, eh bien, on continue de négocier dans la coulisse, et pourtant, on avait cru que lors des élections européennes, la plupart des partis, y compris ceux de droite, avaient dit, mais on va tout mettre sur la table, attention, c'est fini ça, pas de tractation secrète, tout sera mis sur la table, vous allez voir. Et en fait, la rumeur voudrait, alors bon, c'est peut-être volontairement que cette rumeur a été lancée, que autour du 25, eh bien, on fasse état, non pas de d'où en sont les discussions, mais pratiquement d'un accord finalisé. Ce qui effectivement va provoquer un énorme scandale et va discréditer un peu plus non seulement la Commission européenne, l'Europe et en général, et le Parlement européen, dont on attendait autre chose de lui.
Voilà, pause musicale avant d'aborder la rubrique nationale. On va la faire avec une parution toute récente, un disque qui ne doit pas encore être distribué dans le commerce, de la Cobras. Le titre du groupe est assez marrant, Les Ramoneurs de Menhir. Ibrahim s'appelle le morceau, par les Ramoneurs de Menhir. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 8 septembre 2014, et nous arriverons à la rubrique nationale avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex. Alors, le Front de Gauche, il tenait Assemblée Générale à Montreuil, samedi après-midi, samedi. Et arrivera-t-il à recoller le PC et le Front de Gauche, et le Parti de Gauche?
Oui. Oui, il y a eu cette... ils ont appelé ça l'Assemblée de rentrée, parce qu'elle n'avait pas de caractère délibératif, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là pour faire le point, faire voter, faire des tas de textes, etc. C'était essayer de voir où on en est du fonctionnement, bilan contrasté, puisque il y a eu effectivement une période très difficile, notamment au moment des élections municipales, lorsque les deux principales composantes du Front de Gauche, c'est-à-dire le Parti communiste et le Parti de Gauche, ont mis en place des tactiques différentes. Le Parti de Gauche, après l'avoir longuement annoncé précédemment, voulait une rupture plus grande, voire totale, avec le PS, non pas pour le plaisir de rompre, mais parce que l'idée était, on ne peut pas être en désaccord à Paris, c'est-à-dire nationalement, et puis trouver un accord avec des socialistes, ici et là, dans les municipalités. Par contre, c'était effectivement la tactique du Parti communiste qui voulait essayer de sauver les meubles. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en sauvant les meubles, le Parti communiste, en même temps, il sauve les meubles de tout le monde. C'est-à-dire, il sauve les meubles de tous ceux qui composent le Front de Gauche. Alors, tout ça, c'est peut-être, on dira que c'est à courte vue, que ça ne remet pas en selle le grand débat sur la disparition programmée. Alors, on lit des tas d'articles là-dessus. La disparition programmée de la gauche, enfin au sens historique, c'est-à-dire la social-démocratie, qu'elle soit radicale avec les communistes ou qu'elle soit qu'elle soit réformiste, révolutionnaire avec les communistes ou réformiste avec les socialistes. Bon, tout ça, ça pourrait disparaître. D'ailleurs, on continue de rappeler, et c'est intervenu au cours de la discussion samedi, c'était un rappel historique, qu'en Italie, la disparition, ça a été différent, puisque le Parti Socialiste était inexistant ou très faible depuis très longtemps, mais n'empêche, la disparition progressive du Parti communiste en Italie, ça a été également la disparition de la gauche. Bon, il y a encore une gauche, on en a parlé, avec ce que peut représenter Renzi, si tant est que c'est vraiment la gauche italienne. Compte tenu du type de politique qu'il développe, ça paraît pas évident. Donc tout ça, c'était... les gens en ont discuté. Il n'y a pas eu d'accusation, comme ça a pu être le cas pendant au printemps, d'accusation réciproque. Tout le monde a écouté tout le monde, non pas pour se faire plaisir, en se disant, de toute façon, il faut approfondir le débat sur à quel prix on peut faire que la gauche, mais... Alors pareil, une gauche capable d'avoir une alternative politico-économique, quelle gauche et comment on la ressuscite en quelque sorte. Donc tout le monde y est allé de son point de vue. Ça passait aussi par l'idée qu'il faudrait peut-être dépasser le système de cartélisation. Bon, le Front de Gauche, ça ressemble pas à les cartels tels qu'ils existaient il y a 30, 50 ans, où vraiment les partis dans les cartels se retrouvaient, c'était surtout à gauche, se retrouvaient vraiment ponctuellement sur un problème précis. Bon, aujourd'hui, effectivement, le Front de Gauche fonctionne d'une manière un peu plus approfondie, puisque régulièrement, avec à tour de rôle des porte-paroles des trois composantes essentielles, donc parti de gauche, parti communiste, et ensemble, dont on rappellera que c'est le regroupement fédéré d'un certain nombre de petits groupes, dont certains viennent du mouvement, on va dire, libertaire, du mouvement alternatif, ou du mouvement communiste tel qu'il était illustré par la Ligue communiste et après par le NPA. Bon, tout ça, ça s'est retrouvé pour se fédérer, ça aussi. Ensemble doit beaucoup travailler au type de structure qu'ils veulent mettre en place. C'est pas facile, parce que là on retrouve quand même des gens qui ont des origines, même chez les plus jeunes. Les plus jeunes ne comprennent pas souvent les débats des anciens. Et beaucoup d'anciens retournent un peu à ce qu'a été leur positionnement dans la gauche ou l'extrême gauche, etc. Et ça facilite pas la compréhension pour les jeunes qui adhèrent. D'où cette idée qu'il faudra tôt ou tard qu'on puisse adhérer directement au front de gauche. Alors là, ça va être mettre en place une adhésion directe au front de gauche. Ça va être également un énorme travail, mais il semble qu'aujourd'hui, ça devient, et ça a été dit samedi par beaucoup de délégués, ça a été dit que ça devient non seulement urgent d'amorcer ça, mais que c'est la solution pour effectivement que le front de gauche trouve une nouvelle dynamique, et une nouvelle dynamique qui pourra y compris intégrer, ça a été dit aussi, déjà, on pense à 2017, bon, Mélenchon est déjà parti en tête, il s'est dégagé du parti de gauche pour dire, vous voyez, le débat de 2017, c'est la 6e République, c'est une assemblée constituante, c'est des assemblées citoyennes, c'est ça. Et pendant les années qui viennent, les 2 ans qui viennent, il faut travailler là-dessus. Bon, tout le monde est un peu d'accord, là, il n'y a pas de désaccord, mais il y aura quand même la suspicion, et en même temps, tout le monde dit pourquoi pas, mais d'accord Mélenchon, mais à condition qu'à côté, il y ait des contrepoids. Parce qu'on a vu qu'après l'élection présidentielle précédente, eh ben, ça s'est effrité tout doucement, ça s'est délité, parce qu'il n'y avait pas de vrai contrepoids à ce qu'est la pesanteur électorale à travers le type, effectivement, de suffrage présidentiel tel qu'il existe actuellement. Voilà, en gros, ça résume les discussions, et ça va tout ça. Ces discussions vont continuer dès la fin de la semaine, à la fête de l'humanité à la Courneuve, où il y aura tout le monde, y compris d'ailleurs les socialistes, la gauche socialiste, y compris les Verts, et puis peut-être d'autres gens, parce que bon, les communistes voudraient régénérer la gauche avec beaucoup de socialistes. Bon, certains pensent qu'ils rêvent, mais pourquoi pas, ils peuvent toujours essayer, mais il ne faut pas que ça perturbe la marche vers le renouveau du front de gauche.
Allez, en bref, quelques brèves sur les autres réunions. Ben, l'université d'été du Front National de la Jeunesse, oui, ça existe. On notera simplement que la journaliste de Mediapart qui était là, dans le cadre de la grande tolérance et objectivité du mouvement, a été virée du fait que Mediapart, en d'autres temps, a su dire du mal, paraît-il, du Front National. À la Baule, c'était Juppé qui réunissait ses groupies. Lui préconise une attaque en règle contre le FN. Et l'UMP, bien que n'ayant pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de militants à ses universités d'été, les multiplie, puisque à Nice, c'était motodidacte, hein, alias Estrosi. Le grand suppôt de Sarko, qui à son grand désespoir n'a pas vu son leader adoré débarquer, qui avait réuni les jeunes pousses du sarkozysme pour relancer la candidature et la présidence de Sarkozy, puisqu'il semble que c'est toujours lui qui indirectement dirige l'UMP. Un mot de... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, des affaires minables dans lesquelles les socialistes s'enferrent, avec cette histoire de Thomas Thévenot. Hein, celui-là, il n'est pas tombé loin de Lyon, c'est un député de Mâcon, hein, circonscription de Mâcon, et qui a eu le culot déjà de se faire élire comme député alors que depuis 3-4 ans il ne faisait pas de déclaration d'impôt, qui a eu encore plus le culot de se faire nommer au gouvernement, et là, clac, ça y a pété dans les doigts, parce qu'il se trouve qu'il y a un peu plus de vérification publique, et du coup on s'est rendu compte que ce même type, fait quand même incroyable, hein, qu'ils aient ce culot-là, qui accusait quand, comment il s'appelait, Cahuzac, hein, c'est ça, quand il avait son... il était mis en cause pour ses fraudes fiscales, qu'il accusait et qu'il lui faisait la leçon de morale sur le respect des règles fiscales du pays, était lui-même en défaut par rapport au fisc. Et le PS, sans sourciller, alors comme s'il n'avait pas les moyens de vérifier quand il nomme des gens au gouvernement avant, si leur situation est à peu près claire, déjà de les accepter dans des conditions pareilles, eh bien l'ont nommé au gouvernement, et du coup le voilà obligé de démissionner du gouvernement. Mais il ne s'avoue pas gêné pour autant et pense se présenter à l'Assemblée. L'Assemblée où son siège commence à compter beaucoup, puisque le PS, avec ses 1 ou 2 sièges de majorité, a besoin de tout le monde, même sans doute de ceux qui ont plus que fraudé avec le fisc. C'est pas fait pour réconcilier la population avec la classe politique de gauche, et c'est vrai que tout ça, ça fait vraiment le lit des développements du Front National, qui ne se prive pas, bien sûr, d'y aller gaiement sur ces politiciens tous pourris, en oubliant de se mettre dans l'eau, évidemment. On pourrait citer un certain nombre de cas aussi. Par exemple, c'est dans quelle ville? C'est en Moselle qu'il y a une adjointe auto-maire qui réclame au maire le paiement des sommes qu'elle lui a avancées pour se faire élire, qu'il lui a promis et qu'il ne veut plus rembourser. Donc ça bagarre dure, là aussi. La politique, décidément, pratiquée de cette manière-là, est un peu partout la même. Hélas, un autre grand regret d'une démocratie qui est quand même défendue par quelques personnes qui se trouvent bien mal à l'aise face à ces scandales à répétition. Robert, voulais-tu dire encore quelque chose?
À propos, effectivement, de l'activité du gouvernement, bien... Repsalem, il essaye de faire marche arrière sur ses déclarations, mais il n'empêche que tout ça s'est bien acté dans la politique très, très droitière de Valls, que ce soit à propos du contrôle des chômeurs, que ce soit à propos d'un SMIC à 2 vitesses, que ce soit des seuils sociaux qu'on veut abaisser, ou plutôt élever, pour rendre encore plus essayer de rendre plus inefficace l'intervention des délégués sur les lieux de travail. Il y a aussi ce décret pour limiter l'accès aux emprunts toxiques. Alors, très bonne nouvelle. Mais sauf que, en même temps que le gouvernement prend ce décret, il indique que ça crée une sorte... ce décret permet d'amnistier tout le passé. Ça veut dire que les conseils... les conseils municipaux ou les conseils généraux ou d'autres structures sont coincés parce qu'effectivement ils sont terriblement endettés avec ces emprunts toxiques et qui avaient entrepris des actions en justice, par exemple contre Dexia, dont on sait qu'au niveau du financement des collectivités territoriales, c'était un des gros intervenants avec ces modalités toxiques. Eh bien, finalement, toutes les plaintes et les dossiers devront être abandonnés, ce qui commence déjà à ce qui soulève effectivement des protestations énormes chez les victimes et chez tous ceux qui s'apprêtaient effectivement à demander réparation.
Alors,
sur le social, on a compris que effectivement Bruxelles, mais on le savait déjà, demande au gouvernement français de rembourser l'argent qu'il a donné à la Société nationale Corse Méditerranée. C'est pas nouveau, mais ça, on savait que ça fait partie effectivement de la conception du libre marché tel que il est organisé maintenant à Bruxelles.
Oui.
J'avais aussi l'information concernant le dossier GAD. Ce sont ces coopérateurs agro-industriels de Bretagne. Qui vont disparaître s'il n'y a pas un repreneur.
Rapidement, j'ai encore un sujet.
Ils peuvent disparaître. Et il y aura une audience le 11 septembre du tribunal de commerce, je ne sais pas lequel d'ailleurs, pour étudier la possibilité de reprise par Intermarché de l'entreprise GAD à travers une filiale Jean Rosé, une filiale de Intermarché.
Logement étudiant aussi, oui, je voulais donner cette information. Alors, le gouvernement nous fait un effet d'annonce, on ne sait pas ce qu'il faut en penser, parce que il s'agirait de donner une caution de locataire à tous les étudiants de France, français et étrangers, pour leur permettre de ne plus être bloqués dans l'obtention des logements par ces histoires de caution qui pénalisent certains. Alors, ça coûterait aux propriétaires une somme modique, 10 euros à Paris, 7 en province, 9 en Île-de-France. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que ça va être mis en place en l'espace de 2 jours? On a un peu de la peine à le croire, il y aurait 200 000 candidats. Et puis, sur le front des prestations sociales aussi, il y a cette annonce de réduction des prestations familiales qui est en vue. On pourrait, mais ces annonces-là sont toujours balancées comme ça, on pourrait passer le congé maternité de 3 ans à 1 an, on pourrait passer la prime au deuxième enfant de 900 euros à beaucoup moins, prétexte que les équipements sont déjà faits pour le premier. Bref, on a l'impression que la France, ayant trop de chômeurs, pense que sa natalité est aussi trop élevée pour ne pas faire de futurs chômeurs, et que les mesures qui ont facilité la natalité ces dernières années sont là remises en cause. Et puis on a entendu parler d'une nouvelle tout à fait désagréable, c'est-à-dire l'augmentation de la TVA à 2% qui serait prévue. On a déjà calculé tel perret, tel pot au lait, les milliards que ça rapporterait dans les caisses de l'État. 2% de TVA, ça veut dire 2% d'augmentation de tous les prix. Ça veut dire aussi, bien sûr, l'équivalent d'une baisse des revenus de 2% de la même manière. Voilà, ce Canu Info se termine. Il est presque 20h. On vous invite à rester à l'écoute, bien sûr, pour l'émission suivante. Bonsoir. Rediffusion demain matin à 8h et retrouvons sur Internet d'ici 2h. Bonsoir.